Première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent Dehausset.
Le 21 mars 1804, dans les fossés du château de Vincennes, le duc d'Enghien, un des chefs de file royalistes, est fusillé. Une opération de la police secrète de Napoléon pour démoraliser les royalistes et affaiblir les Bourbons. Mais en coulisses, c'est Talleyrand, dont le rôle dans la conspiration est encore discuté, qui renforce sa position. Encore un coup de maître du plus grand caméléon de l'histoire, Nicolas Bogaerts.
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord a survécu, Laurent, à tous les régimes, de la Révolution à la Restauration, en passant par le Consulat et l'Empire. Évêque d'Autun, député, ministre de Napoléon, puis de la Restauration, cet intrigant personnage, à l'aura sulfureuse, est au cœur donc de ce complot, de l'assassinat du duc d'Enghien, et au cœur aussi d'un livre signé Daniel Charles Leutens et Alain Leclerc, intitulé « Talleyrand, les derniers secrets », édité chez Jourdan. Alain Leclerc a bien voulu répondre à nos questions autour d'un des plus fascinants hommes d'État de l'histoire de France.
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, c'est la grande noblesse française, c'est la grande noblesse de la campagne, c'est des vieilles familles. On dit que les Périgord remontent à Hugues Capet, auraient été des vassaux en ligne directe du Capet, donc c'est une grande famille, c'est une famille qui est ancrée dans l'histoire, qui est ancrée dans la terre. À l'époque où Talleyrand naît, son père est colonel, il est chevalier de Saint-Michel, il est lieutenant général, son oncle est archevêque de Reims, sa mère elle-même a une charge à Versailles. Donc c'est une famille, ce ne sont pas les grands ducs, ce ne sont pas des Orléans, ce ne sont pas des Guises, mais c'est une famille importante de la noblesse française. Ce sont des gens qui comptent et qui peuvent prétendre à des charges. Ce sont des gens qui automatiquement sont bien nés. Ce sont des véritables familles que l'on respecte dans l'Ancien Régime et qui peuvent se prévaloir de leur nom. Ce sont des Périgord, Talleyrand étant un surnom qui après va s'accoler au nom, ça sera les Talleyrand de Périgord. Talleyrand-Périgord dans l'appellation coutumière de l'époque.
Alors votre ouvrage, donc Talleyrand, les derniers secrets, se centre sur les mémoires de Talleyrand. Ouais. Alors évidemment, c'est une somme littéraire et historique très importante, puisqu'elle donne un regard sur les coulisses de cette politique chahutée de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Mais, comme vous l'écrivez, il y a quelques questions qui entourent la publication de ces mémoires.
Oui, les mémoires de Talleyrand, c'est un document qui, à l'époque, même s'il paraît la première fois en 1891, c'est-à-dire 53 ans après la mort du principal concerné, c'est-à-dire de Talleyrand lui-même, c'est quelque chose qui est, pour cette époque, l'équivalent d'aujourd'hui si on avait accès à tout ce qui est classifié dans les archives américaines. C'est l'équivalent de Kissinger, tout ce qu'il aurait eu comme correspondance, comme échange pendant la guerre de Vietnam ou les premiers conflits israélo-palestiniens. C'est aussi un peu comme si on mettait, par rapport à un épisode dont on parlera tout à l'heure, qui est l'assassinat du duc d'Enghien, si on avait accès aux archives de la CIA concernant l'assassinat de Kennedy. Donc, Talleyrand, c'est la personne, comme on le verra au cours de cet entretien, qui est au centre de toute la politique de l'Europe depuis Louis XVI jusqu'à Louis-Philippe Ier, c'est-à-dire qu'il va passer aussi bien de la royauté, par la Révolution, par le Directoire, par le Consulat, par l'Empire, par la Restauration. Donc c'est quelqu'un qui va être une sorte, après ça c'est un terme qu'on employait pour un capétien, mais une véritable universelle à règne. C'est quelqu'un qui touchera à tout. Et dès que ses mémoires paraissent, il y a des gens qui s'attendent à ce que ça fasse scandale. Mmh. Elles ne font pas scandale, donc tout de suite apparaît dans la presse, parce que même le Times de Londres, à l'époque, en parle en disant « ce n'est pas possible, ce sont pas les vraies mémoires de Talleyrand, elles ont été expurgées, il n'y a pas tout, parce qu'il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de révélation. » Des gens ont même mis en doute, mis en cause le fait qu'il les a écrites, mais ça, on a fait des recherches et on s'aperçoit qu'effectivement, Talleyrand lui-même en parle, il en parle à Chateaubriand, il en parle à Lamartine, il parle de ses mémoires. Lui-même demande à ce qu'elle ne soit publiée que 30 ans après sa mort, pour que les principaux personnages concernés ne soient plus impliqués, parce qu'il est mêlé à peu près à tout ce qui se fait en Europe de bien et de pas bien, et elles ne le seront que 53 ans. On sait aussi que quand son secrétaire particulier, à qui il confie ses documents, décède, c'est sous le règne de Napoléon III, eh bien, automatiquement, son bureau est mis sous scellé par Napoléon III et on s'imagine qu'une partie des documents peuvent avoir disparu à ce moment-là. Après, bien entendu, c'est ça qui est fantastique là-dedans, c'est les non-dits et ce qui n'apparaît pas est parfois plus intéressant que le dit. Et c'est autour de ce qui est non-dit, de ce qui n'apparaît pas que les chercheurs se sont répandus. Il ne faut pas oublier que Talleyrand a une correspondance aussi de milliers de lettres qui sont encore disponibles dans la plupart des chancelleries. Donc, avec ce que l'on a retrouvé, dont on sait qu'il y a des parties qui ont été apocryphes, des parties qui ont été certainement censurés, plus ce qu'on retrouve, on parvient à refaire quand même un tissu assez intéressant de ce qu'a pu être la vie de ce personnage et son influence en Europe.
Alors justement, la vie de ce personnage, la vie politique, la vie publique de ce personnage commence en 1788, lorsque Talleyrand est nommé évêque d'Autun, dans une tradition familiale, bien sûr, et puis il est président de l'Assemblée nationale en 1790, et puis durant les premières années de la République, il va s'exiler. Il est porté d'ailleurs sur la liste des émigrés. Quel révolutionnaire est Talleyrand exactement, Alain Leclerc ?
Alors, déjà, Talleyrand, il faut se dire qu'il est évêque. Il est évêque parce que c'est lui l'héritier en titre de ce fameux titre de Talleyrand-Périgord, mais il a un pied beau. Et de ce fait-là, il n'est pas considéré comme étant capable de reprendre le titre des Talleyrand-Périgord, ce qui fait que c'est son frère cadet qui va en hériter. Et lui, eh bien, il n'aura pas droit à la carrière des armes, il n'aura pas droit à la carrière militaire, il n'aura pas droit à la richesse, il n'aura pas droit à un mariage financé par la famille. Non, qu'est-ce qu'on va faire, comme les derniers enfants des familles nobles à ce moment-là ? Eh bien, on va lui trouver une place dans le clergé. La carrière ecclésiastique va lui permettre de rentrer en politique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y a le tiers-état, et que le clergé a droit à des députés. Et il sent le vent tourner, et dès qu'il entend que le roi convoque le tiers-état un peu avant la Révolution, eh bien, il va tout de suite faire campagne, se faire élire et rentrer dans l'Assemblée constituante. Et à partir de ce moment-là, il a son pied en politique, il ne quittera plus cette politique, il va oublier totalement sa charge, il va être simplement député, et à partir de ce moment-là, il va vivre la politique française au cœur de l'actualité, au jour le jour, pendant plus de 40 ans.
Talleyrand embrasse la cause révolutionnaire contre sa classe d'origine. Il le voit comme une opportunité de rentrer en politique, Nicolas.
Oui, c'est une étape importante dans le cursus honorum du personnage, la carrière de cet intrigant très complexe. Alors, après avoir renoncé à porter la robe d'évêque, le voilà révolutionnaire, mais pas pour longtemps, puisqu'il s'exile durant la Première République pour mieux revenir sous le directoire, servir un certain Napoléon Bonaparte.
Sans doute vous allez rire, Fouché, mais cette fois je suis sincère. Dans ma jeunesse, j'ai eu une ambition pour la France. Je l'aurais voulu exemplaire. Une France exemplaire où l'on aurait parlé paisiblement la plus belle langue du monde. Il est bien malheureux que l'empereur n'ait pas eu cette même idée de la France. Lui ne l'aimait que débordant de ses frontières naturelles. Cette France-là, batailleuse, aspirant à toute l'Europe, ne me disait rien qui vaille. Napoléon, dans ses fureurs, a tué la douceur de vivre.
En somme, vous n'avez trahi que par vertu.
Je n'ai jamais abandonné un prince avant qu'il ne se fût abandonné lui-même. Infidèle au régime, j'ai toujours été fidèle à la France.
C'est quelqu'un qui a le sens de l'État. Je crois que c'est quelqu'un qui ne s'oublie pas, mais qui en même temps est un véritable homme d'État. Je crois que c'est quelqu'un qui, effectivement, va se servir de cette révolution parce qu'il pense, je pense sincèrement, il va être aussi à l'origine des droits de l'homme. Il va faire toutes sortes de choses qui, d'un point de vue institutionnel, sont des choses remarquables pour l'époque. C'est lui aussi qui va penser à combler la dette de la France et à renflouer les caisses de l'État en vendant les biens du clergé. Alors, il ne faut pas oublier qu'il est évêque d'Autun. Donc, il sera un traître toute sa vie pour l'Église. Donc, ce personnage, je crois, est réellement quelqu'un qui veut que les choses changent, veut que réellement il y ait une amélioration de la condition générale de la population en France, ça ne l'empêche pas de ne pas s'oublier. Ça veut dire que lui, il a sa carrière, c'est quelqu'un qui veut briller, qui veut réussir, mais en même temps, il ne le fait pas au détriment de la chose publique, et il va réellement s'investir dans la révolution. Ça sera un vrai révolutionnaire jusqu'au moment, et ça va être ses premières trahisons, jusqu'au moment où il va trouver que la révolution va trop loin. Là, lui-même s'inquiète, il sait qu'il est d'origine noble, il sait que tous les autres qui ont épousé la cause de la révolution, pour un oui, pour un non, à ce moment-là, on passe à l'échafaud. Donc, à ce moment-là, il va partir en Angleterre et même aux États-Unis, pour revenir après.
Alors, il revient en France au début du directoire, en 1796. Il va en être d'ailleurs un des ministres. Il va démissionner en 1799, parce que, sans doute, il prépare déjà le coup d'État du 18 Brumaire pour Napoléon Bonaparte. C'est le début alors du consulat de Napoléon. Quelles vont être ces relations avec Bonaparte? On sent vraiment qu'un coup il s'aime, un coup il se déteste, et qu'il s'utilise d'ailleurs avec beaucoup de sagacité.
Alors c'est le couple infernal. Quelque part, ils ont tous les deux besoin l'un de l'autre. Napoléon est fasciné par Talleyrand. Napoléon, c'est le personnage un peu rustre malgré tout, c'est la toute petite noblesse, on ne sait même pas s'il est vraiment noble. À un moment donné, il va faire jouer le fait qu'il ait peut-être été d'origine noble italienne, et puis à d'autres, non, c'est l'enfant du peuple. Et Napoléon est quelqu'un de mal dégrossi, il ne faut pas oublier, on n'a pas d'enregistrement, mais c'est quelqu'un qui parle mal le français, qui le parlera toute sa vie avec un accent. Et l'accent corse à l'époque, ça n'a rien de charmant, ce n'est pas comme l'accent provençal aujourd'hui. Donc, et par contre, Talleyrand, c'est le savoir-vivre, c'est la classe, c'est l'entre-gens. Et Talleyrand, c'est à la fois une vision politique, et c'est la destinée de la France à travers la politique, et Napoléon, c'est quelque part le bras armé, même s'il a... Et tous les deux sont complémentaires, tous les deux vont avoir une relation de haine-amitié, comme ça, ils vont... Napoléon fera tout le temps, quelque part, amende honorable devant Talleyrand. Plusieurs fois, il le démettra. À un moment donné, certainement, Talleyrand pensera notamment après l'entrevue d'Erfurt avec le tsar, où lui-même, il est convié par Napoléon à venir à cet entretien, on va faire la paix avec le tsar, et Talleyrand voit le tsar en aparté et lui dit qu'il ne doit pas du tout écouter Napoléon, que Napoléon reviendra sur ses paroles et qu'il doit résister, même si c'est nécessaire par les armes, alors qu'il est là avec Napoléon, et Napoléon finit par le savoir. Napoléon rentre dans une colère noire, c'est la fameuse phrase, après personne ne l'a enregistrée, mais vous êtes une merde dans un bas de soie, et Talleyrand, lui, à ce moment-là, pense que Napoléon, auquel il a cru, commence à aller trop loin et commence à avoir des envies qui ne correspondent plus au bien de ce que lui imagine pour la France. Et donc, comme il le dira souvent, oui, il trahit et il n'hésite pas à trahir à partir du moment où les gens eux-mêmes ont commencé à trahir leur pays ou leurs idéaux.
Il dit, sous tous les gouvernements que j'ai servi, il n'y en a aucun de qui j'ai reçu plus que je ne lui en ai donné, que je n'en ai abandonné aucun avant qu'il ne se fût abandonné lui-même.
Voilà. Et je crois que là, on est bien dans ce qu'est le véritable sens de la chose publique, de la res publica, de la république, c'est-à-dire, même si on n'y est pas, à l'époque, on est sous le consulat ou sous l'empire, mais il y a des gens qui, à un moment donné, ont comme optique le bien d'un État, à leur manière. Ce n'est pas encore un écolo ou un socialiste, mais c'est des gens qui avaient une vue positive d'un État, qui avaient le sentiment de pouvoir améliorer les choses et qui se tenaient à ça. Et quand ils pensent que le roi doit être remplacé, il fait la révolution. Quand ils pensent que la révolution va trop loin, eh bien, il est pour le fameux triumvirat composé principalement des trois consuls avec principalement Napoléon. Quand après ça, il pense qu'il faut un homme fort pour remettre de l'ordre dans tout ça, eh bien, il va passer par Napoléon qu'il va mettre en avant, qui sera le premier consul. Et même si après, il faut vraiment asseoir l'autorité de la France pour qu'elle se stabilise en Europe, s'il faut que Napoléon soit empereur, il fera tout pour que Napoléon soit empereur. Mais quand Napoléon ira trop loin, il fera tout aussi pour que Napoléon quitte son siège, son trône, et remettre quelqu'un d'autre à sa place.
Napoléon, dans ses fureurs, a tué la douceur de vivre. La restauration va ramener dans ses fourgons les privilèges. Elle ne donnera pas de génie aux privilégiés. Et puis je vais vous faire un aveu, tout ça. Ce qu'on dit de moi, je m'en fous.
Alain Leclerc et votre invité Nicolas pour évoquer la carrière intrigante de Talleyrand en 1814. Il est au gouvernement provisoire durant la première captivité de Napoléon. Il sera ministre de la Restauration, très actif au congrès de Vienne en 1815, puis ambassadeur en Angleterre en 1830 jusqu'à sa mort en 1838. Une carrière longue donc et aussi pleine de rebondissements, et ça c'est le moins qu'on puisse dire.
République, empereur, roi, il a tout vendu. C'est ce que dit de lui un poème satirique d'Auguste Marseille Barthélemy. Alors, on l'appelle, ce cher Talleyrand, le protée aux pieds boiteux, le Satan des Tuileries. On ne traverse pas d'ailleurs, Laurent, le régime de Louis XVI à la monarchie de Juillet en étant au cœur du pouvoir sans intriguer un petit peu. Alors, l'une des grandes intrigues d'ailleurs d'un palmarès bien fourni sera justement l'assassinat du duc d'Enghien, prince de Condé, descendant des Bourbons, dans lequel il va entraîner Napoléon pour nettoyer le terrain avant un sacre impérial programmé.
Et ce jeune homme, le petit-fils du grand Condé. Ah, le duc d'Enghien lui-même. Encore un Bourbon, cousin du roi. Enlevé en pays de Bade, un pays neutre, et par des cavaliers français sur ordre de Bonaparte, jugé sans avocat, condamné sans la moindre preuve, et exécuté la nuit même dans un fossé du château de Vincennes. Une tache de sang sur les aigles.
Il sait que si on remet sur le trône en l'état un Louis qui sera le Louis XVIII, ce n'est pas la bonne solution pour lui. Si Napoléon incarne cette image forte, on peut peut-être arriver à cet équilibre européen qui favorisera le commerce, la paix et le bien-être pour chacun. Donc à partir de ce moment-là, il faut absolument empêcher tout retour possible du roi sur le trône de France. Et Louis XVIII, depuis plusieurs mois, fait sans arrêt des appels du pied à Napoléon. À un moment donné, il va falloir mettre entre la royauté et le pouvoir en place, c'est-à-dire celui de Napoléon, quelque chose qui soit, comme beaucoup d'historiens l'ont dit, une sorte de fleuve de sang, une barrière de sang entre Napoléon, qui n'est pas encore empereur, et la royauté. Il va partir certainement intrigué pour que un brave garçon quelque part, quelqu'un qui n'a fait que lutter les armes à la main avec des armées, je vais dire de la réaction, des armées de confédérés, qui est le duc d'Enghien, qui est un descendant des Bourbons, eh bien ce duc d'Enghien, c'est certainement lui qu'on attend, c'est lui qui va essayer, qui va tout faire pour renverser Napoléon. À partir de ce moment-là, on va mettre en place une sorte de grande machination, plusieurs centaines de gendarmes, certains disent 600, d'autres 1000, qui vont passer les frontières de la France, intervenir dans un état étranger, arrêter le duc d'Enghien dans sa maison en Allemagne. On le ramène automatiquement tout de suite à plusieurs heures de calèche à Paris, à Vincennes. Là-bas, les officiers attendent déjà. Il y a une sorte de tribunal expéditif qui le juge, qui lui dit « Vous avez comploté contre la France ». Et bon, le but, ce n'est pas du tout de prouver qu'il ait raison ou tort. On le juge, on le condamne à mort. La séance est à peine donnée. On va le chercher. On le conduit dans les douves du château de Vincennes, et là, il est automatiquement fusillé et jeté dans un trou qu'on a déjà préparé à l'avance. Le mois suivant, Napoléon sera sacré empereur des Français.
Oui, alors, Louis XVIII, à ce moment-là, il est en Pologne, hein, il cherche à retourner en France, il est soutenu par le tsar, et puis abandonné par le tsar. On sent bien qu'il y a tout un jeu diplomatique en coulisses derrière. Il y a cette machination qui est avancée par Napoléon et ses services, dont font partie Talleyrand. Il faut mettre une séparation nette avec la famille des Bourbons qui pose problème, effectivement, au pouvoir de Napoléon. On a beaucoup parlé, on a beaucoup imaginé une raison plus personnelle à cet assassinat du duc d'Enghien pour Talleyrand.
Il a été dans les premiers révolutionnaires, il a été à la Convention et il sait quelque part que si, par hasard, les rois revenaient, eh bien, il y aurait certainement une purge, et notamment tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'exécution de Louis XVI. Il en était, et mettre cette barrière de sang entre la royauté et Napoléon, c'est empêcher le retour d'un potentiel roi de France, qui sera un roi vengeur, un roi revanchard, certainement, et c'est une garantie qu'il se donne à lui-même pour ne pas risquer de lui aussi perdre tout avec un éventuel retour de Louis XVIII. Mais à un moment donné, Louis XVIII reviendra, on aura toujours beaucoup de mépris pour Talleyrand. Il fera quand même, toujours Talleyrand, sous Louis XVIII, la politique de la France, et il représentera quand même toujours Louis XVIII. Ça veut dire que ce personnage que Napoléon peut haïr, que Louis XVIII pouvait mépriser, qui est passé, qui a eu peur à un moment donné de se retrouver lui aussi la tête sur le bureau, malgré tout a toujours tenu un cap et a continué à servir ce pays qui était la France.
Quand on regarde la manière avec laquelle il va à la fois sauver sa peau, sauver quelque part la souveraineté de la France après 1815, et se mettre au service de Louis XVIII, en anticipant d'ailleurs sur son retour, il le fait aussi dans un cadre où il est entouré d'hommes d'État de premier plan, Seyès, Cambacérès, Fouché quand il est aux côtés de Bonaparte. Metternich, au moment du congrès de Vienne en 1815, il s'en sortira toujours.
Talleyrand est, j'en veux dire, beau parleur, mais c'est bien plus que ça. C'est un véritable intellectuel brillant. C'est quelqu'un qui a le sens de la répartie. On raconte toutes sortes de phrases qu'il aurait lâchées. Par exemple, une fois, il est à un dîner et il a en face de lui une personne qu'il n'aime pas trop et qui dit à un moment donné à la cantonade, comme ça, la table, parce qu'il est entre deux personnes assez intéressantes, je suis entre la beauté et l'intelligence. Et Talleyrand le regarde et lui dit, oui, c'est dommage, et vous n'avez aucun des deux. C'est quelqu'un qui a le sens de la répartie, c'est quelqu'un qui, il ne faut pas oublier, il doit compenser un handicap physique. C'est quelque chose qu'il traînera toute sa vie. Par exemple, il est certainement né comme ça, mais il dira à tout le monde toujours que c'est une de ses nourrices qui l'a laissé tomber. C'est quelqu'un qui ne peut pas être... C'est quelqu'un, il est boiteux, il s'appuie sur une canne. Donc, à part briller intellectuellement et socialement, il n'a pas d'autre arme dans la vie. Et une des armes pour des gens qui sont à la fois des politiques et des personnes qui veulent, s'accaparer l'attention d'une assemblée, eh bien, il y a la voix. Et Talleyrand est un personnage de la voix, est un personnage de la répartie, est un véritable homme d'esprit. C'est l'homme d'esprit à la façon de l'Ancien Régime.
À l'immobilité de l'histoire. Et au mouvement des affaires.
Nouvel Ancien Régime, fils de Saint-Louis, et à notre amitié.
Et au Nir, retraite, au Nir.
Alain Leclerc est notre invité, il est l'auteur avec Daniel Charles Leitens de Talleyrand, Les Derniers Secrets, c'est un ouvrage qui est paru aux éditions Jourdan. Nicolas, c'est un livre qui éclaire les derniers points d'ombre d'une carrière politique qui n'en a pas manqué.
Oui, Talleyrand aura fait un personnage de cinéma prié par Sacha Guitry, Abel Gance, Édouard Molinaro, un personnage fascinant, détestable, admirable, c'est selon, mystérieux jusque dans ses propres mémoires, dont Alain Leclerc nous a fait un commentaire détaillé, et je m'en voudrais de ne pas déposer ici la pensée qu'il a pour la famille de Daniel Charles Leitens, qui nous a quittés récemment et dont ce livre est le dernier ouvrage d'une longue série avec les éditions Jourdan.
Merci Nicolas, à très bientôt. Et c'est déguisé en mendiante, accompagnée de son serviteur déguisé, lui en moine, qu'Alexandra Davinet est la première femme à pénétrer en 1924 dans Lhasa, la capitale du Tibet, qui est alors interdite aux étrangers. C'est son parcours que l'on vous racontera dès demain après le journal de 13h. Avant tout cela, c'est Gilles Martin Chauffier, journaliste écrivain, qui est l'invité de Jérôme Collin, entrée sans frapper sur la première. Belle après-midi avec nous.
Ça se passe près de chez vous.
L'agenda Bruxelles-Brabant-Wallon à Jarboulèche.
Ce mardi, on découvre Ivolivi ou le destin d'Yves Montand. Ivolivi naît en Toscane un an avant l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Des quartiers malfamés de Marseille et aux studios d'Hollywood, voici l'histoire des premiers pas sur scène d'Ivolivi jusqu'au dernier combat d'Yves Montand. Sur scène, 5 comédiens, chanteurs et danseurs nous entraînent dans la vie d'un petit gars, fils d'immigrés communistes italiens, qui deviendra un monstre sacré du cinéma français et un géant du musical. Yves Olivier ou le destin d'Yves Montand, c'est à voir ce soir à 20h30 au Théâtre Le Public. Toujours sur les planches, il y a aussi Dans la peau de Cyrano de Nicolas Devor. Une pièce qui met en scène Colin qui fait sa rentrée en première secondaire. Pas facile de passer du monde de l'enfance à celui des grands, surtout quand on est différent. Un spectacle drôle et émouvant sur la différence et le harcèlement, avec aussi un vibrant hommage au théâtre de Cyrano. C'est à voir ce soir à 20h30 au Centre culturel d'Auderghem.
Le Tiguan, avec deux séries LED à la conduite qui corrige automatiquement les erreurs de trajectoire. Conditions portes ouvertes jusqu'au 25 septembre chez
Volkswagen.
Avec Daoust, le ménage, c'est schtroumpfement facile. N'est-ce pas, grand schtroumpf?
Schtroumpfement, oui. Devenez client Daoust titre service avant le 15 décembre et recevez un mois de ménage gratuit.
En 2018, les schtroumpfs ont rejoint la grande famille Daoust. Comme eux, rejoignez-nous sur daoust.be et profitez d'un mois de ménage gratuit. Daoust, partenaire de la Schtroumpf Expérience à Bruxelles Expo.
Un accident? Nous venons sur place pour vous aider à remplir votre constat. Même la nuit, Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré.
Direct. Shopping.